Dans quelques instants, nous allons lire un extrait du livre de Josué, chapitre 1er, si vous voulez, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, au chapitre 1 de Josué. Mais je voudrais vous présenter le contexte, parce que tout à l'heure, je commencerai au verset 10. Je vais vous présenter le contexte, et le meilleur moyen, c'est quand même de lire aussi les premiers versets qui ne seront pas affichés là. Donc je vous invite à les écouter. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. » Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. C'était donc les 9 premiers versets du début du livre de Josué. Et puis au même chapitre, versets 10 à 18, après avoir été nommé chef, Josué se voit contraint d'opérer une transition majeure dans la gouvernance, qu'on appelle en bon français le leadership, et de revoir largement des pratiques vieilles, de 40 années. En d'autres termes, il est sur le point d'apporter de grands changements au milieu du peuple. Et chaque fois qu'il y a des changements importants dans la façon de faire d'un groupe de personnes, en particulier quand cela implique l'abandon de ce que ces personnes ont connu toute leur vie ou presque toute leur vie, il existe des poches de résistance et des personnes connaissent un sentiment d'insécurité qui évolue parfois en conflit si l'on n'est pas averti. Les gens de tous les groupes, et en particulier dans les églises, défendent des modes de pensée traditionnels, des façons de faire établies de longue date, et même des fois défendent des dirigeants éternels ou des lieux de rencontre familiers, des bâtiments, je veux dire. On finit dans certains cas, si les choses se passent mal, bien sûr, par vivre une croissance du nombre d'églises par scission des églises. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, dois-je le préciser. C'est vrai, il est insensé de discuter de certains changements. Ils ne sont tout simplement pas si importants que cela. Mais un changement difficile qui signifie choisir entre une routine familière, connue, et suivre la parole de Dieu mérite que l'on parte au combat. Alors que Josué va annoncer des grands changements à venir, lui risque de susciter des conflits de personnes qui ne veulent pas changer, justement. Et Josué va leur rappeler quelque chose dont nous devons tous nous souvenir, que ce monde n'est pas tout, qu'il y a plus à vivre que cette vie, et que nous avons une mission à accomplir. Bien que Josué soit un militaire, un général accompli, on lui dit d'être fort et courageux à 3 reprises dans ce premier chapitre, et même la 2e fois, on lui dit d'être fort et très courageux, parce que la tentation est grande pour ceux qui conduisent, pour les leaders, de prononcer les mots des hommes qui rendront les hommes heureux, et non les paroles de Dieu qui les rendront saints. Ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, même s'ils prospèrent, réussissent ou sont populaires aux yeux du monde, mais eux ne sont pas forts ou courageux. Leur direction, leur but et leur joie changent, selon le sens du vent parfois. Leurs sentiments, leurs pensées, leurs expériences passées ou leurs espoirs déçus gouvernent leurs décisions. Mais ceux qui suivent la parole de Dieu, même s'ils ne semblent pas réussir ou être populaires aux yeux du monde, sont sûrement les plus forts et les plus courageux dont parle la parole de Dieu. Donc Dieu a donné un ordre. Et la question est de savoir si Josué, nouveau leader, le suivra, et aussi si le peuple suivra ce nouveau leader. Je continue ma lecture au verset 10 du premier chapitre du livre de Josué. Josué donna cet ordre au secrétaire du peuple. Parcourez le camp et donnez au peuple cet ordre. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné quand il a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous accorde le repos, il vous donne ce pays. Vos femmes, toutes vos familles et vos troupeaux resteront dans le pays que Moïse vous a donné en Transjordanie. Mais vous tous, vaillants guerriers, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. » Alors j'apporte juste une précision. Donc là, la parole est adressée à 3 tribus ou 2 tribus et demie. Et le problème, c'est que eux sont bien installés, mais qu'il y a encore toutes les autres tribus qui doivent trouver un pays, un territoire. Et donc l'ordre est donné aux 2 premières tribus et demie. De participer aussi à la conquête au bénéfice des autres tribus qui restent. Il y avait 12 tribus en Israël. Vous tous, vaillants guerriers, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. Rappel à l'ordre. Jusqu'à ce que le Seigneur ait accordé le repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient, eux aussi, en possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, leur a donné. Après quoi vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. Moïse, serviteur du Seigneur, vous l'a donné en Transjordanie, du côté du soleil levant. Ils répondirent à Josué, « Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'écouterons exactement comme nous avons écouté Moïse, seulement que le Seigneur, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. » Quiconque sera rebelle à tes ordres, quiconque n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras, sera mis à mort. Seulement, sois fort et courageux. Alors, le dernier verset est difficilement applicable de nos jours. Je vous rassure, vous ne risquez pas votre vie ici. Je reprends les versets 10 et 11. Josué donna cet ordre au secrétaire du peuple, parcourez le camp, donnez au peuple cet ordre. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Vous voyez, vous entendez, vous comprenez, Josué n'hésite pas à suivre le commandement de Dieu. Il n'y a rien à considérer, ni à prier, en l'occurrence. Il agit simplement sans discuter et sans retard. Et après avoir entendu, compris la parole de Dieu, il commande au secrétaire du peuple d'agir. Alors, Qui sont ces secrétaires ? Parmi les traductions que j'ai lues, j'ai rencontré le mot secrétaire une fois dans la Nouvelle Bible Seconde, celle que je viens de lire. Mais le mot scribe se trouve aussi une fois dans une autre traduction. Et puis le mot responsable aussi se trouve trois fois en lieu et place de secrétaire dans d'autres traductions. Et le mot officier se trouve aussi trois fois, donc dans trois autres traductions. Donc, traduction trahison, dit-on. Il est difficile de traduire exactement ce mot, mais vous pourriez dire à la place de secrétaire, responsable ou officier. Et je pense qu'aujourd'hui, on dirait plus communément responsable. Donc, qui étaient ces responsables ou ces officiers, pourrait-on dire ? Il y avait plusieurs niveaux de gouvernance, de leadership en Israël. Par exemple, dans Exode 18, Jéthro, le beau-père de Moïse, dont on a parlé il y a quelques semaines, lui suggère qu'il s'organise et qu'il identifie différents chefs capables de gérer les affaires du peuple. Dans Exode 24, il y a 70 anciens qui montent à mi-chemin du mont Sinaï. Dans Nombre 11, l'Éternel ordonne à nouveau à Moïse de rassembler 70 anciens pour l'aider dans sa charge de direction d'un peuple nombreux. En d'autres termes, même si Josué est le principal dirigeant d'Israël, le peuple est tout de même dirigé par de nombreux hommes. Il doit arriver un moment où la mission de l'Église devient autre chose que ce que les pasteurs font et ce que je fais. Vous voyez, que d'autres se saisissent de ces charges et en prennent responsabilité. Ce que j'apprends de ce passage n'est pas que Josué commande ses chefs, mais qu'il a des chefs à instruire dans la mission qu'il veut leur confier. Les dirigeants sont là pour instruire eux-mêmes, pour écouter, pour agir, parce qu'ils croient en Josué, mais plus important encore, ils croient en leur mission. Et si vous ne faites pas confiance au leadership et ne croyez pas en la mission du peuple de Dieu, alors je ne vois pas pourquoi accomplir le travail de l'Évangile aujourd'hui pourrait ressembler à autre chose qu'à un devoir à accomplir. Il y a toujours un pourcentage de personnes plus ou moins petites qui embrassent pleinement leur identité en tant que membres du peuple de Dieu, les uns et les autres formant ce peuple qui travaille ensemble. Il y a des membres de notre Église qui ont choisi non seulement de suivre Dieu, mais aussi d'amener les autres à suivre Dieu. Et le meilleur moyen serait de diriger en partageant une vision pour l'Église qui ne vienne pas de l'esprit des hommes, mais de la parole de Dieu. Autre remarque, ce sera quand même la deuxième fois que les Israélites vont traverser ce que j'appellerais un plan d'eau en suivant Dieu. La première fois, lorsque Moïse a quitté l'Égypte, avec le peuple derrière lui, ils sont partis en toute hâte pour fuir l'ennemi. Mais il convient de noter que le livre de Josué ne donne pas l'image de fabricant de briques impuissant qui fuit l'esclavage, mais de soldats forts et courageux se préparant à combattre le péché. Les hommes voient ce qui se passe, ils savent où ils vont, conscients de la promesse de Dieu, conscients de la mission de Dieu, habités par la force de Dieu, prêts à aller de l'avant dans la foi et confiant à Dieu les résultats. Au verset 12, il est écrit « Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné quand il a dit « Le Seigneur votre Dieu vous accorde le repos, il vous donne ce pays. Vos femmes, toutes vos familles, vos troupeaux resteront dans le pays que Moïse vous a donné en Transjordanie, mais vous tous, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. » jusqu'à ce que le Seigneur ait accordé le repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient eux aussi en possession du pays que le Seigneur votre Dieu leur a donné. Après quoi, dit-il, vous reviendrez sur vos terres. Josué ordonne donc à ses officiers de communiquer l'objet de la mission à la majorité du peuple. Ensuite, il s'entretient avec les chefs des tribus transjordaniennes. C'étaient les tribus qui avaient donc déjà reçu les terres du côté oriental du Jourdain plusieurs années auparavant, mine de rien. Les habitants donc de Ruben, de Gad et de Manassé. Dans Nombre 32, bien avant les événements dont nous parlons, après l'incident du rocher avec Moïse, Israël a continué vers le pays des Amoréens. À ce moment-là, ils ont demandé à certains rois de traverser paisiblement leurs terres, et ils finissent par vaincre deux rois, qu'on a appelés Sion et Og, du côté donc oriental du Jourdain. Et puis, peu de temps avant la mort de Moïse, deux tribus ont demandé à Moïse de leur attribuer un héritage côté oriental, justement, du Jourdain, et de ne pas les faire traverser le Jourdain. C'est vrai que Moïse soupçonne que leur demande est en fait une nouvelle tentative, un peu motivée par la peur, par la crainte probablement, destinée à leur permettre d'éviter d'obéir aux ordres de Dieu. Mais en réponse, Moïse leur dit « Vous vous êtes levés à la place de vos pères qui ont péché et vous augmentez encore la colère de Dieu contre Israël. Mais si vous vous détournez de lui, qui sait s'il ne vous abandonnera pas à nouveau dans le désert et ne détruira pas tout ce peuple ?» Et en réponse, le peuple lui assure que le jour venu, ils se lèveront et ils passeront le Jourdain avec leurs frères. Moïse accepte alors de les conduire et il parle à Josué, en fait. Et nous voyons aujourd'hui, ce matin, avec Josué, donc de nombreuses années plus tard, que les dirigeants dirigent. La palissade, presque. Josué sait où se déroulera le plus grand conflit. Il sait déjà qui va hésiter le plus, qui va probablement se rebeller, qui va se plaindre encore en premier. Les dirigeants ne peuvent échapper à des conversations difficiles avec les personnes les plus difficiles. Il y a des choses que vous ne pouvez pas déléguer. À bien lire l'histoire de Moïse et de Josué, donc par exemple, qui se sont suivis dans la mission de conquête du pays de Canaan, mais à bien lire aussi l'histoire de Paul et de Timothée, entre autres, les dirigeants ne peuvent éviter les personnes difficiles ni les fuir. Fortifie-toi et prends courage, dit le Seigneur. Et dans ce cas, dans notre cas ce matin, Josué va vers les gens qui souhaitent le plus rester en retrait, tranquille, et leur dit que Dieu leur ordonne d'aider leurs frères. Et là, il met l'accent sur un fort sentiment d'unité de famille que nous avons peut-être perdu dans les temps modernes en tant qu'Église. Et nous vivons en espérant que la famille que nous sommes en tant qu'Église fonctionne d'une certaine manière en fonction de nos attentes. C'est souvent comme cela que nous comprenons l'Église. Si ce n'est pas le cas, nous justifions alors notre refus d'aimer la famille, de servir la famille, de nous battre avec la famille, surtout quand cela nous coûte quelque chose. Nous pouvons être tentés de nous préoccuper uniquement de nos intérêts, de notre propre héritage, de notre propre famille au sens commun du terme, et de notre propre sécurité, de ne pas nous impliquer. Telle est donc la tentation que ces tribus, exactement, doivent combattre, ces trois tribus. Tout au long du livre de Josué, il y a une préoccupation pour toute la nation. Que nous devrions avoir pour notre propre Église aussi. Comment ma présence ou mon absence dans l'œuvre affecte-t-elle le corps de l'Église? Comment mes contributions sont-elles profitables à la communauté? Ou comment mon égoïsme gêne-t-il la communauté? Comment mon péché affecte-t-il les autres? Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Nous avons besoin les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres, dit Paul aux Galates, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Celui qui se considère comme quelqu'un d'important alors qu'il n'est rien s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui-même, et non par rapport à quelqu'un d'autre, car chacun portera sa propre charge. Et puis à nouveau dans l'Épître aux Éphésiens, Paul affirme ceci, « En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. » En d'autres termes, la mission est incomplète, elle est inefficace sans vous. Nous sommes moins forts sans vous. Et chacun peut se dire dans l'assemblée, je suis moins fort si les autres ne sont pas aussi avec moi dans la communauté et dans la mission. Et il est à noter que Josué ne dit pas aux tribus récalcitrantes, s'il vous plaît, venez avec nous. Accordez-nous cette grâce et restons unis parce que sans vous, nous échouerons militairement. Il ne dit pas ça, il dit simplement, souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné. Au verset 16 à 18, le peuple répond à l'appel de Josué. Tout ce que tu nous as ordonné, disent les membres de ces tribus, nous le ferons, nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'écouterons exactement comme nous avons écouté Moïse. Seulement, que le Seigneur ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Et vous vous souvenez de ce dernier verset, quiconque sera rebelle à tes ordres, quiconque n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera mis à mort. Seulement, sois fort, et courageux. Les gens disent qu'ils obéiront et que quiconque ne le fera pas devra être exécuté. Il y a toujours eu une tension entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Les gens disent beaucoup de choses. Ils disent qu'ils aiment Jésus, mais leurs actions vous disent qu'ils aiment leurs péchés. Ils disent qu'ils respectent les dirigeants, mais ils refusent d'écouter leurs instructions ou leurs conseils. Ils disent qu'ils croient en la parole de Dieu, mais ils refusent de la lire, de la méditer, de faire ce qu'elle dit. Et Dieu n'est pas satisfait avec ces apparences. Les membres du peuple acceptent ce que Josué leur a commandé, acceptant d'aller partout où il les envoie, tout comme ils l'ont fait avec Moïse. Mais avec quelle facilité ils oublient que leur histoire, racontée pour nous dans les livres des Nombres et du Deutéronome, témoigne de l'infidélité de leurs parents et de leur rébellion contre Dieu, bien que tous aient pu dire « nous obéirons ». Et à mesure que cette histoire se déroule, nous voyons qu'Israël ne donne pas suite à bon nombre des instructions données par Josué. Il le sait lui-même. Et ils le savent bien. Il ne pourra pas compter sur l'obéissance des autres. Nous ne pouvons pas compter sur les paroles, sur les actions, sur les applaudissements des autres, des hommes pécheurs, dont nous sommes tous. Nous devons voir clairement que nous devons dépendre de Dieu et pas des hommes. Notre engagement à suivre la vérité de Dieu ne dépend pas de l'engagement de quelqu'un d'autre à le suivre. Nous dépendons directement de Dieu, en qui nous pouvons avoir confiance. Alors les membres du peuple confessent qu'ils suivront. Josué a dû quand même les rappeler à l'ordre pour qu'ils le fassent. Alors pourquoi ces tribus acquiescent-elles au rappel de Josué et ne renoncent-elles pas à aider leurs frères des autres tribus dans leur conquête ? Ils auraient pu rester tranquilles de leur côté du Jourdain. Et peut-être une raison serait qu'ils font confiance à Josué. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi font-ils confiance à Josué ? Il ne dit pas au peuple, « Dieu m'a dit que je suis votre responsable maintenant. » Il ne dit pas au peuple, « Vous devez venir avec nous parce que si vous ne venez pas, nous perdrons probablement, nous avons donc besoin de vous. » Il ne dit pas au peuple non plus, « Oh, j'ai presque oublié vos gars, mais Dieu m'a rappelé que vous étiez là. » En fait, il vient vers ces tribus parce qu'il s'était appliqué à connaître la parole de Dieu. Peut-être aurait-il pu dire, « Je lisais dans le livre des Nombres hier soir, mais il n'y avait pas de livre des Nombres à l'époque. » Quelque part, d'une manière ou d'une autre, il a médité la parole de Dieu. Il a parlé de la parole de Dieu. Il a dit, « Rappelez-vous ce que Dieu a dit. » Et c'est pourquoi ils lui font confiance. Et c'est pourquoi ils le suivent. Alors je peux faire confiance à un leader qui est soumis à la parole, une personne forte et courageuse. Je peux lui faire confiance. Si je ne peux pas faire confiance à un tel leader, il faut aussi que je me pose la question de ma propre soumission à la parole. Josué, lui, se révèle être un homme qui n'est pas fier après avoir eu un succès personnel ou après avoir connu des victoires militaires, qui n'est pas intéressé par la popularité, qui n'a pas peur de dire des mots durs parce qu'il s'efforce de maintenir l'honneur de Dieu en obéissant à chaque mot que Dieu a dit. Et cela demandera d'avoir des conversations dures, d'instruire des choses difficiles et de travailler pour l'unité trop souvent mise à mal. Les membres du peuple ont confiance en leur chef Josué parce qu'il vient de prouver qu'il connaît la parole et qu'il prend ses décisions par la parole et qu'il s'engage à obéir à la parole de tout son cœur et non à la suite d'une pression extérieure. Eh bien, c'est la clé, je crois, ou en tout cas, c'est une clé pour tout dirigeant. Les gens vous feront confiance, vous obéiront, vous suivront et participeront aussi quand ils sauront, en vous observant et en vous entendant, que votre vie est soumise à la parole de Dieu, que vos désirs sont soumis aux avertissements de Dieu, que vos décisions sont gouvernées par la sagesse de Dieu et que votre but, unique but, est de rendre gloire à Dieu par l'obéissance et non de vous rendre gloire à vous-même par la désobéissance. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné cette instruction à Josué et par trois fois, sois fort et prends courage. Et tu nous adresses aussi cette même parole aujourd'hui en nous demandant d'être fort et de prendre courage dans toute l'œuvre que nous accomplissons pour toi, pour que ta gloire resplendisse. Oui, c'est vrai, peut-être dans le monde entier, mais soyons simplement réalistes, autour de nous déjà, dans cette ville et dans cette région. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes imparfaits, que nous péchons encore, malgré ta grâce. Mais nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que nous pouvons revenir à toi et que nous pouvons entendre ta parole avec le désir de l'accomplir, de t'obéir. Alors merci, Seigneur, parce que nous vivons aussi spirituellement un combat de tous les jours. Merci de nous rendre forts et courageux, et que nous puissions chaque jour nous attacher à ce que ta parole nous révèle. Amen.